Merci Daniel, tu m'as fait pénétrer en enfer dans un va-et-vient doux, envoûtant, une heure sans fatigue ni repos. Va dans les poèmes, jaillissement de phrases brûlantes, les mots savants, les chansons bien balancées. Ah, c'était bien. Merci.
Oui, alors voulez-vous dire à Mermès que son rire ordinaire et idiot, on en a assez. Maintenant, ce programme de porno, quand il y a tant de belles choses à parler, c'est vraiment dégoûtant. Mais en fait, c'est comme ça. Le rire, surtout, hein, hors droit.
Tout est dans la façon. Je ne peux en juger, en l'occurrence, que dans les mots. Le porno, l'érotisme des autres, c'est une fuite facile. La pornographie est la façon indigne de traiter l'amour, de traiter de l'amour. Le fruit d'une incapacité à en soutenir la beauté et la profondeur. Signe d'immaturité. C'est Jocelyne à Bayonne.
Bonjour Daniel, je voudrais citer Jean-Louis Fournier. Merde en pauvre se dit merde. Les rares mots que les riches et les pauvres ont en commun, ce sont les gros mots. Avec ces mots-là, monsieur riche et monsieur pauvre s'entretiennent le plus couramment, même sans avoir été présentés l'un à l'autre. Avec ces mots-là, les hommes retrouvent, au-delà des clivages sociaux, leur nature profonde. Le verbe du premier groupe, enculé, rapproche le riche et le pauvre. Voilà, c'était Lucie de la Haute-Saône. Bonjour Daniel, je voudrais citer Jean-Louis Fournier. Merde en pauvre se dit merde. Les rares mots que les riches et les pauvres ont en commun, ce sont les gros mots. Avec ces mots-là, monsieur riche et monsieur pauvre s'entretiennent le plus couramment, même sans avoir été présentés l'un à l'autre. Avec ces mots-là, les hommes retrouvent, au-delà des clivages sociaux, leur nature profonde. Le verbe du premier groupe, enculé, rapproche le riche et le pauvre. Voilà, c'était Lucie de la Haute-Saône.
Oui, bonjour Daniel, je suis maire d'un petit bled là, et j'ai détourné plein de pognon dans la caisse municipale, et avec un copain maire d'un bled voisin, là, on a triché aux dernières élections, on a fait voto des morts. Alors on se disait qu'on pourrait peut-être prétendre à la Légion d'honneur, nous aussi. Faudrait qu'on fasse une demande auprès de la petite saucisse. On verra bien. Allez, au revoir.
George Bush vient d'épouser Paris Hilton.
Hey, bonjour, j'écoute à l'instant la France Inter ce matin. Et c'est M. Moscovici qui est l'invité du 7-9. Et je l'entends expliquer que le nouveau traité de Lisbonne n'est pas le même traité que celui de 2005, que c'est même exactement, ou c'est plutôt exactement le même, mais débarrassé de la partie 3, que c'est super, quoi, enfin tout va bien, c'est génial, et que au-delà de la position qui consisterait à accepter, il n'y en a qu'une seule. C'est celle qui isolerait la France, qui bloquerait l'Europe. Donc on retombe dans la même rhétorique de la meilleure période propagande de 2005. Tout est bien et au-delà de ce que je dis, tout est nul et c'est la catastrophe. Et donc soyons responsables et écoutez ce que je dis, c'est vrai. Je trouve ça un n'importe quoi et il a vraiment pas honte de mentir et de dire des énormités en appelant à la discipline au sein du Parti Socialiste, c'est de la merde quoi.
En ce lundi 4 février de l'an de grâce 2008, réunis comme il se doit à Versailles, les députés et les sénateurs vont dire au peuple qu'ils sont censés représenter qu'il s'est trompé, qu'il a eu tort de voter non au référendum du 29 mai 2005. Laissez-nous faire, nous savons ce qui est bon pour vous, on connaît la chanson. Ainsi, la période des soldes va continuer avec moins 100% sur la démocratie. Merci à ceux qui pourront aller à Versailles un baillon sur la bouche, que leur silence soit assourdissant. Si jamais, comme on peut s'y attendre, les glorieuses forces de l'ordre, de leur ordre, auront bouclé tous les accès au château de nos bons maîtres, j'émets la proposition de dresser place de la Concorde une réplique de la fâcheuse et faucheuse guillotine, histoire de rappeler quelques souvenirs désagréables à notre nouvelle aristocratie versaillaise. Quant aux députés et sénateurs du parti dit socialiste, qui par un vote contre peuvent forcer le pouvoir à organiser un nouveau référendum, je leur annonce, et je ne serai peut-être pas le seul, que la prochaine fois qu'un second tour d'une quelconque élection, j'ai hélas, encore une fois, le choix entre le libéralisme dur et le libéralisme mou, je mettrai encore le bulletin du libéralisme mou, mais cette fois-ci, le nom sera barré avec la mention 4 février 2008. Bon courage à tous, c'était François de Strasbourg.
Salut Daniel. Aujourd'hui, lundi 4 février, M. Sarkozy est en train de détruire la démocratie en France avec la complicité du Parti Socialiste. Et moi, j'avais un souhait pour ton émission aujourd'hui, c'était que tu rediffuses quelques messages auxquels on avait droit après son élection le 6 mai, tous ces gens qui nous appelaient, qui appelaient ton répondeur en disant que on n'avait plus le droit de critiquer l'élection de M. Sarkozy parce qu'il avait été élu démocratiquement, donc on avait le droit de fermer notre gueule et qu'il fallait qu'on l'accepte parce que les urnes avaient parlé. J'aimerais bien en entendre un ou deux de ces messages-là pour... comme ça, pour montrer aux gens ce que fait des urnes et du vote des Français, M. Sarkozy. Voilà, c'est un jour bien triste aujourd'hui. Salut, au revoir.
Merci pour vos messages, amis modestes et géniaux de là-bas, si j'y suis dans tous les sens. C'est parfait. Alors, vous savez que bientôt vont commencer les cérémonies officielles ou non officielles d'anniversaire de mai 68, et à en juger par le nombre de livres qui nous arrivent, de débats promis, d'émissions spéciales annoncées, il y a de quoi faire une barricade. Je ne sais pas si quelqu'un fait ou fera l'histoire des commémorations de mai 68, 78, 88, 98, 2008, mais ça en dirait long, non pas tant sur mai 68 que sur chaque époque, chaque année. Mars 78, les législatives, 88 présidentielles, 98 cohabitations, etc. À chaque fois, eh bien, l'angle change, la sauce change. Bien sûr, on ressort les mêmes nostalgiques, les mêmes renégats qui chaque toutes les décennies gonflent un petit peu plus, les mêmes voleurs de mémoire, les mêmes vieux cons avec leurs mêmes chansons, les mêmes anciens combattants avec leur bon vieux temps. Et en attendant tout ça, bien évidemment, 2068, où on verra le plus vieux survivant de la rue Gay-Lussac, décoré de l'ordre du pavé d'honneur et qui viendra nous dire « ce n'est qu'un début ». Mais au cours de toutes ces commémorations, il y en a un qui n'est pas tellement invité, c'est le revanchard. Et bien évidemment, il y a des revanchards au cours de ces 40 années. C'est installé, c'est distillé, c'est développé une pensée anti-68. Et cette pensée anti-68, elle a explosé au printemps dernier, au printemps 67, à travers la tirade hargneuse et invraisemblable de qui vous savez invraisemblable, n'empêche que ça n'était pas rien. Ça n'était pas rien et il y a fort à parier que ce déluge de commémoration qui va commencer doit beaucoup à cette tirade hargneuse du printemps dernier. Alors, nous, on a décidé de tirer les premiers. Vous savez qu'il y aura 3 jours de commémoration sur France Inter autour du 22 mars, ce qui en soi est déjà une indication d'une orientation. Et oui, le 22 mars, c'est le début, c'est le fameux mouvement du 22 mars, mais c'est mettre l'accent sur la révolution du côté étudiant, ou la contestation du côté étudiant, alors que, bien évidemment, il y a une autre lecture de mai 68 qui est celle des grèves ouvrières, les plus grandes manifestations ouvrières de l'histoire ouvrière en France. Et il y a au moins 2 mai 68. Mais réduire mai 68 à 2, c'est évidemment insuffisant, tant cette histoire, cette ovni historique qu'est mai 68 ressemble assez à un cochon qu'on peut cuisiner comme on l'entend, d'une année sur l'autre, d'un moment à l'autre. Et on va le faire aujourd'hui. On va le faire aujourd'hui avec un 68art, quelqu'un qui revendique mes 68 et comment, et qui s'appelle Gérard Filoche. Gérard Filoche, c'est un invité régulier des émissions, c'est un inspecteur du travail, c'est un militant de gauche, socialiste, avec un passé d'extrême gauche qu'il ne renie pas, et il était un acteur en mai 68, et il sort un bouquin qui s'appelle Mai 68, Histoire sans fin, avec pour sous-titre Liquider Mai 68, même pas en rêve. On a compris qu'il va défendre les valeurs de Mai 68, mais quelles valeurs au juste, et il va raconter Mai 68 à sa façon, avec son angle à lui. On aura d'autres interventions, d'autres émissions sur ce thème d'ici, eh bien, d'ici à mai. Ça nous fait quand même du pain sur la planche. Mais je voudrais qu'on commence ces émissions qui viendront comme ça au fil des numéros de la base, si j'y suis, avec cette phrase de Sartre prononcée, Jean-Paul Sartre prononcée un certain après-midi à la Sorbonne, à Paris, devant un auditoire qui n'était pas constitué que d'étudiants. Jean-Paul Sartre disait « Quelque chose est sorti de vous qui étonne, qui bouscule, qui renie tout ce qui a fait de notre société ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ce que j'appellerais l'extension du champ du possible. N'y renoncez pas. » On va pas y renoncer. Encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. Je suis au 01 56 40 37 37 et le combat continue.
Ouais, bonjour Stéphane de Coulommiers. Tout le monde débat sur faut-il travailler le dimanche ou pas travailler le dimanche. À la limite, le problème il est pas là. Le problème il concerne les 5 jours qui précèdent le dimanche. C'est-à-dire que si les 5 jours qui précèdent étaient payés correctement, je pense qu'on se poserait moins la question de savoir si on doit travailler le dimanche ou pas. Bonne journée à tous.
Bonjour, c'est Christian du repère de Mornant dans les coteaux du Lyonnais entre Lyon et Saint-Étienne dans le 69. Donc ce soir se tient le repère. Exceptionnellement, on ne le fera pas au petit bistrot comme d'habitude, mais on va se rendre à la salle de l'Orme à Mornant à 20h30 parce que nous avons le plaisir d'avoir Christian Vélo. Et je pense que c'est la bonne occasion de pouvoir échanger avec lui. Donc, à tous les amis du repère de Mornant, rendez-vous à 20h30, salle de l'Orme, avec Christian Vélo. Bonne journée, à tout à l'heure.
Bonjour. Jean-Wilfried Tsonga, jeune tennisman qui vient d'empocher 400 000 euros en Australie. Il n'y a pas que sur les cours qu'il est rapide. Il y a 15 jours, au début du tournoi, il habitait à côté du Mans. Et aujourd'hui, comme beaucoup de ses copains tennisman, à côté du lac Léman, côté suisse bien sûr. Le côté particulier de la situation, c'est que ses parents sont enseignants. Ils auraient peut-être pu lui expliquer que l'impôt c'était un acte solidaire basique, servant dans de multiples domaines, notamment d'ailleurs pour payer les enseignants. Cela dit, ce comportement peu civique lui vaudra certainement les honneurs de la table de Sarkozy. Pratique courante chez celui-ci. Et pourquoi pas plus tard la Légion d'honneur pour service rendu à la nation suisse, bien sûr. Salut, c'était Christian.
Oui, bonjour, c'est Hervé, chauffeur routier. Je téléphonais pour donner ma solidarité pour les grévistes, grande distribution. Et qu'elle continue comme ça, que toutes ces caissières et tous ces gens des entrepôts, exactement, continuent jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils puissent manger, vivre normalement. Au revoir, à la prochaine.
Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Hein. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. Bien sûr, les mêmes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, il y a avec le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors.
On va pas tout résoudre aujourd'hui. On va y arriver à l'imposer.
De toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron.
Il y a trois semaines et plus un jour.
C'est une étape, c'est
pas. Ben oui,
hein, c'est pas fini.
C'est bien ce qu'il a perdu, lui. T'as fait pas pire.
C'est pas fini, c'est une étape.
Il a dit chez Mondeur, ça sera plus jamais comme avant.
Salut, c'est Daniel Mermet, la base J'y suis avec Gérard Fidoche. Une histoire sans fin.
Flight number 2, arriving from New York.
Gérard Fidoche, on va commencer par une devinette. Qui a dit il nous faut un autre mai 68 et qu'on le gagne?
Alain Madelin, 1995.
Voilà.
Quand il était ministre à Bercy, et il a démissionné parce que il n'appréciait pas que Chirac n'ait pas assez fort dans les réformes libérales. En fait, après, Chirac s'est retourné, Juppé l'a fait, il a fait le plan, et ils ont eu un mai 68 contre eux, novembre-décembre 95. Et ils l'ont perdu.
Alors, on va parler de mai 68. Ça y est, la commémoration a commencé. Et ça démarre très très fort avec un numéro de Libération qui fait sourire, sinon éclater de rire, mais avec pas mal d'amertume. Ceux qui ont vécu, on peut dire vécu, le journal Libération, ceux qui ont assisté à la naissance de Libération, qui ont financé Libération au départ, dont je fais partie, et qui voit qu'aujourd'hui, eh bien, mai 68 est incarné dans la personne de Laurent Geoffrin. Il y aura d'autres personnes qui, dans les jours et semaines qui viennent, incarneront mai 68. On est habitué à ces détournements d'héritage à chaque anniversaire, hein, 78, 88, 98 et puis 2008. Gérard Fidoche, vous avez sorti un bouquin, vous avez tiré le premier ou parmi les premiers, enfin sur cet anniversaire-là, avec un mai 68, une histoire sans fin, et le sous-titre dit assez bien les choses, liquider mai 68, pour l'interrogation, même pas en rêve, c'est chez Jean-Claude Gabzevitch. Est-ce qu'il faut vous présenter d'abord?
Je suis un militant, depuis, ça fait maintenant, ça ne me rajeunit pas, mais 44 ans que j'ai dû faire ma première manif contre le plan Fouché à Rouen. Et je suis un fils d'ouvrier, un cheminot sédentaire et d'une aide-soignante de Sotteville-lès-Rouen.
Inspecteur du travail?
Oui, ensuite, bien sûr, mais j'ai fait plein de choses entre-temps. J'ai fait 50 petits boulots, j'ai été facteur, moi aussi. Oui, pendant plus d'un an. J'ai été conducteur de diesel, j'ai été manutentionnaire, j'ai été prof de philo, j'ai été journaliste. Finalement, j'ai passé un concours de fonction publique et je suis effectivement devenu inspecteur du travail. Ce métier, en plus, m'a passionné. Si j'avais pas été militant avant, il m'aurait fait devenir militant, parce que le simple fait de rentrer dans les entreprises et de voir brutalement l'exploitation... Alors, parfois on me dit que quand je le décris dans mes carnets d'inspecteur du travail ou autre chose, je fais du Zola. Non, c'est Zola qui est toujours présent. Il n'y a qu'à ouvrir une permanence d'un inspecteur du travail et la filmer. Ça a déjà été fait, d'ailleurs, pour voir les gens arriver effondrés à 50, 55 ans quand on les vire et que leur vie est foutue et qu'ils savent pas comment ils vont s'en tirer. Quand on voit le gars qui est dans le fond de la cuisine et puis qu'on apprend qu'il faisait 280 heures le mois dernier, si ce n'est 300 heures dans le mois, et qu'elles n'étaient pas payées. Quand on voit l'accident du travail sur lequel on met le nez, puis on découvre que c'est un Roumain de 20 ans qui a été tué, et qui était sans papier, qu'on a fait mourir en le faisant venir de là-bas, ici, rue de la Michaudière, à Paris. Bon, quand on voit ce métier, quotidiennement, on a envie de se dire stop, c'est pas possible, là-haut, ils voient pas.
On va en parler du Code du Travail, parce que ça, c'est une de vos bagarres. On va parler du traité de Constitution européenne tel que modifié et la suite. On va parler aussi de lui-même, ça, c'est une de vos castagnes et de vos bagarres.
Oui, mais... j'adore Denis Gauthier Souvenir comme Madame Parisot, c'est mes préférés.
Je sais. Mais on va commencer par mai 68. Et ce sous-titre que vous donnez à votre bouquin, liquider mai 68, même pas en rêve. Encore une fois, j'y reviens, on va assister à une célébration qui sera cette fois-ci assez particulière. Parce que l'an passé, c'est avec rage, hargne et un délire tout à fait surprenant que notre actuel président de la République s'en est pris à cette époque, à cette génération et à toute la déliquescence que cela a entraîné.
Mais 1968 nous avait imposé le relativisme intellectuel et moral. Les héritiers de mai 68 avaient imposé l'idée que tout se valait, qu'il n'y avait donc désormais aucune différence entre le bien et le mal, aucune différence entre le vrai et le faux, entre le beau et le laid. Ils avaient cherché à faire croire que l'élève valait le maître, qu'il ne fallait pas mettre de notes pour ne pas traumatiser les mauvais élèves et que surtout, il ne fallait pas de classement. La victime comptait moins que le délinquant et ils avaient cherché à faire croire qu'il ne pouvait exister aucune hiérarchie des valeurs. D'ailleurs, il n'y avait plus de valeurs, plus de hiérarchie. Ils avaient réussi, il n'y avait plus rien du tout. Et eux-mêmes, c'était pas grand-chose. Ils avaient proclamé les héritiers de 68 que désormais tout était permis, que l'autorité c'était fini, que la politesse c'était fini, que le respect c'était fini, qu'il n'y avait plus rien de grand, plus rien de sacré, plus rien d'admirable, plus de règles, plus de normes, plus d'interdits. Bon résultat en vérité. Souvenez-vous du slogan de mai 68 sur les murs de la Sorbonne. Vivre sans contrainte et jouir sans entrave.
Vous, quel est votre 68 à vous? Comment vous le vivez? Comment vous l'avez vécu? Comment vous le vivez toujours aujourd'hui?
Écoutez, il y a deux 68. Parce que l'actuel président, il a dit qu'il voulait liquider mai 68, mais ça dépend lequel. Parce qu'il en a pris un à son gouvernement, Kouchner. Il aime bien le mai 68 mondain. En fait, ce qu'il aime pas, c'est le mai 68 social. Et ce qu'on va nous célébrer, là, pour les 40 ans, j'ai l'impression que c'est le mai 68 mondain. On va avoir droit à tous les clichés du quartier latin, à toutes les bagnoles renversées de la rue Gay-Lussac, mais jamais on va nous parler des 9 ou 11 millions de grévistes, de leurs revendications salariales, de leurs revendications en matière de durée du travail, de leur volonté de dignité. Faut se souvenir de la fille de chez Vonder, qui voulait pas rentrer à la fin en disant c'est trop dégueulasse dans cette tôle.
La reprise.
La reprise, bien sûr. Il faut se souvenir des films sur les cheminots qui expliquent comment ils sont harassés en conduisant leur locomotive. Il faut se souvenir de tous ceux qui voulaient pas reprendre, qui avaient pas satisfaction aux accords de Grenelle. Et c'est les 9 ou 11 millions de grévistes, c'est ça qu'a fait mai 68, vous savez.
Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Hein. Vous rentrez ici, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, il y a avec le patron, c'est tout ce que j'ai à faire, de toute façon, alors.
On va pas tout résoudre aujourd'hui. On va y arriver, l'imposer.
Bah, de toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, parlez avec le patron, avec.
C'est une étape.
C'est bien ce qu'il a perdu, lui.
Tout
c'est pas fini.
Il a dit chez
Mondeur,
ça sera plus jamais comme avant.
Un ouvrier pour un étudiant, qu'est-ce que c'est?
Vous voyez, c'est un homme qui travaille beaucoup pour gagner pas grand-chose. Comme c'est un homme, il a droit à travailler moins et à gagner plus.
Il n'y a pas un peu de romantisme révolutionnaire lorsqu'on est étudiant et qu'on vient regarder les ouvriers de Boulogne-Billancourt en grève?
Romantisme révolutionnaire pour certains, oui. Moi, je suis venu parce que je me sens solidaire de ces gens-là.
Le mouvement étudiant. Alors, moi, j'étais étudiant à Rouen. Fils d'ouvrier, je regardais surtout quand ça bougeait avec Léon Renault. Je regardais surtout quand ça bougeait dans la poste. Mais enfin, comme étudiant, je regardais les choses. Mais c'était pas ça qui me passionnait le plus. C'est pas qu'une Bendit qui me passionnait. Je l'aimais pas dès cette époque-là. Je vous fais ça. Je vous dis ça en confidence. Mais ce qui me passionnait le plus, c'est quand les deux copains sont venus de Renault-Cléon le matin à 5h, puis qu'ils m'ont dit, ça y est, Gérard, on occupe la boîte depuis minuit. Alors là c'était quelque chose, j'en rêvais quelques années auparavant et ça se faisait. C'est-à-dire, ils le faisaient. Le vrai mai 68 commence le 15, 16, 17 mai. Alors, souvent on dit, c'est les étudiants. C'est compliqué. Parce que, en fait, les courbes des grèves, elles ont commencé à partir de la grève des mineurs en 64. On a deux 17 mai, 66 et 67, pour défendre les ordonnances de la sécurité sociale. Ce sont deux grèves générales dans le pays, massives et unitaires. Il était prévu en mai 68, un 17 mai. Il a été avancé. Mais il y avait déjà une courbe des grèves, Redon, Rodiaceta, la Savienne. Les premières barricades de 68 sont ouvrières, dans la région de Caen. C'est la Savienne, c'est Féraudeau.
Quelle date?
C'est la fin du mois de janvier, pendant à peu près 8 à 10 jours.
Le 26 janvier dernier à Caen, cette ville surnommée Caen la Paisible, 12 000 jeunes ouvriers en grève descendaient dans la rue et provoquaient presque une émeute.
C'est un vrai soulèvement de jeunes travailleurs.
Dans cette région peu développée, une tentative de décentralisation avait propulsé de la campagne nombre de jeunes en quête de travail. Peu ont trouvé un emploi répondant à leurs qualifications. Enfin, un fait nouveau apparaît. À Caen comme ailleurs, les jeunes travailleurs, s'ils luttent toujours pour leur salaire, réclament la sécurité dans l'emploi et de meilleures possibilités pour leurs loisirs.
Et alors, vous savez, on va vous citer, comme dans toutes les cérémonies officielles, Pierre Viançon-Ponté, qui a dit en février...
La France en nuit.
Alors tout le monde dit, oh quel génie. Mais c'était pas génial du tout. Il voyait rien venir, alors que tout était sous ses yeux. Tout était en train de monter, de se préparer, et la jeunesse n'est que la plaque sensible qui reflète les rapports de forces sociaux souterrains.
Donc vous êtes rentré à la Savienne. Est-ce que vous étiez le vendredi soir, le 26 janvier, au moment des bagarres qu'il y a eu à Caen?
Oui, j'étais au milieu, même en tête au départ, pour la bagarre, pour la manifestation.
Puis on en avait marre de voir quand même ce CRS qui était devant nous, qui nous repoussait très loin.
Pouvez-vous nous dire dans quelles conditions de vie travaillent les jeunes à Caen?
Et ces rapports de forces sociaux, ils étaient en train de monter depuis 4 ans. Toutes les études le montrent.
Oui, mais qui les avait vus?
Les courbes de grève, on les connaissait. Moi, j'ai pas de grandes prétentions, mais on aurait pu se planter, mais on avait nos 20 ans, et on disait, on va bientôt avoir la révolution. Et on s'appuyait sur chaque mouvement, on disait, regardez ça. Donc, je les connais bien, avec le temps. Je me souviens bien de tout ce qui se passait. On disait, oh, la classe ouvrière est embourgeoisée, il y avait des tas de thèses qui sortaient là-dessus, ils aimaient mieux le PMU et le tiercé, etc. Et nous, on disait, non. Regardez bien, dans cette boîte-là, ils se sont battus. Là, ils veulent du salaire. Là, ils veulent du temps de travail. Et donc, moi, je regardais. Nous regardions cela à l'époque avec attention. Et c'est ça qui a explosé. Alors, ils ont profité des étudiants. C'était le bon climat. Mais les étudiants, on les aurait oubliés sans les ouvriers. Hein? Moi, je suis allé manifester à Berlin en février 68 avec Rudi Dutschke. Bras dessus. J'ai la photo. Mais on aurait oublié le mouvement étudiant allemand. Parce qu'on l'a oublié, parce qu'il n'y a pas eu le mouvement étudiant salarié derrière. Voilà. Hein. Et en France, il y a eu le mouvement salarié. Alors c'est le 15, 16, 17 mai. Alors, faut regarder, c'est Sud Aviation, c'est Renault Cléon, et après c'est une vague partout. Partout. C'est-à-dire que ça touche les gardiens de musée, les joueurs de football, les cinéastes, les chirurgiens dentistes, les commerçants, tout, les pompistes, tout y passe, quoi. C'est-à-dire, on sent que c'est un peuple, c'est la plus grande grève.
Gérard Filoche, c'était une grève sur l'avenir, c'était une grève sur un futur, parce qu'il faut rappeler quand même que ces années-là, qu'on a inscrit ensuite dans ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, c'était des années de plein emploi. C'était des années avec une gauche, avec un parti communiste notamment, qui était fort. C'était des années où le capital et le travail étaient face à face.
Oui. Oui, mais il y avait eu quelques défaites. La guerre d'Algérie avait étouffé quand même. Le coup d'État militaire-policier de 58 également. Le Parti communiste avait reflué, la gauche tout entière. Elle n'était revenue, la gauche, qu'en 67. Parce qu'on l'a oublié, mais la gauche a manqué la majorité au Parlement, sous De Gaulle, d'un siège en mars 67. Et ça aussi, ça révélait une certaine montée de toute la gauche. Il y a même une scission syndicale de l'époque, de la CFTC vers la CFDT, et la CFDT n'a pas l'image qu'elle a aujourd'hui, qui est une poussée à gauche du point de vue syndical. Donc c'est vrai qu'il y a cet affrontement. Il y a que quelques centaines de milliers de chômeurs, on n'a que 500 000 étudiants, cette société s'est développée, a fait des bons en avant fantastiques en 10, 15, 20 ans, mais la redistribution des richesses ne s'est pas faite. Il y a des points communs avec aujourd'hui aussi, parce qu'aujourd'hui la France n'a jamais été aussi riche, les caisses privées sont pleines, et le salaire n'est pas redistribué. Et en France, ça fait 4 ans que ça bouge aussi. Hein. 2003 sur les retraites, c'est pas gagné. 2006 sur le CPE, c'est gagné. Et la courbe des grèves, elle est très forte, y compris dans le privé, comme on peut le voir avec ceux du commerce ou ceux du bâtiment très récemment.
Oui, mais
il y a des points communs.
Oui, Gérard Filoche, vous êtes inspecteur du travail, oui, vous suivez le monde du travail à la seconde près. La grande différence entre mai 68 et aujourd'hui, c'est le chômage,
bien
et la précarité.
Bien sûr.
Très grande différence.
Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut admirer quand même le salariat français qu'a fait novembre-décembre 95, parce qu'il y avait le chômage, et ça a étonné partout dans le monde. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Hein, les Italiens ont dit l'Europe est un volcan et quand la lave veut sortir, elle choisit Paris. Bah, pourtant, on avait 5 millions de chômeurs. Et on l'a fait quand même en novembre-décembre 95. On avait encore 4 millions de chômeurs en 2003. Mais on a quand même fait 30 millions de jours de grève. 11 journées nationales enseignantes, 9 journées interprofessionnelles, 4 grandes journées de manifestation à plus de 2 millions pour défendre nos retraites. Alors, Raffarin a dit, c'est pas la rue qui gouverne. Bah, il a eu les urnes. Hein. Et puis après, il y a eu le non. 55% pour le non, qui était très politique et densifié sur le plan social. C'était 75% des ouvriers, 63% des employés, 75% de la gauche, 59% des électeurs socialistes. Puis après, il y a eu le CPE. C'est seulement il y a 2 ans, le CPE. C'est-à-dire qu'on a mis la droite à genoux, et tous les syndicats unis, et ça ressemblait quand même étrangement. Il y avait des consonances. Moi, je pense, suis de ceux qui pensent, c'est pour ça que j'ai fait mai 68, histoire sans fin, suis de ceux qui pensent que la force propulsive de mai 68 n'est pas épuisée. Ouais, quand l'actuel président il dit « Je veux liquider mes 68 », d'un certain point de vue, il rend hommage. 40 ans après, ça l'obsède encore. Mmh. Ça les a obsédés en 1986, après la mort de Malik Oussekine. Ça les a obsédés quand ils ont finalement enlevé les morceaux sur les retraites du plan Juppé. Ça les obsède encore aujourd'hui, parce qu'ils veulent passer des attaques sans précédent contre tous nos droits sociaux. Mais ils ont encore peur de ça. Heureusement d'ailleurs, heureusement.
Est-ce que selon vous, en mai 68, effectivement, le pouvoir a eu peur? Est-ce que quand De Gaulle se rend à Baden-Baden, est-ce qu'il a peur? Parce que comme Adelin dit, on a perdu. En fait, ils ont gagné, ils ont repris le pouvoir. Et à la rentrée de septembre 68, la France profonde s'est rangée du côté de la majorité de l'époque.
Oui, moi j'ai jamais été satisfait de la version de la rencontre, comment on dit, Baderne-Baderne.
Oui, ça Baderne et Baderne,
Baderne. Rencontre. C'est-à-dire, ils s'enfuyaient. Il a donné plusieurs fois des ordres pour qu'en fait il y ait une répression policière, autant qu'on sache, dans les milieux très restreints, et Pompidou. L'autre a pas voulu, il a pas été suivi, il avait perdu le pied, il savait pas quoi faire, il s'en allait. Et l'autre lui a dit, mais non, mon général, t'en vas pas. Mais sinon, c'était la déroute totale, les ministères se vidaient. Et il avait raté sur le référendum. Et en fait, c'est parce que la gauche, hélas, n'a pas été à la hauteur. Je sais qu'on va le redire sur 40 ans. Le mouvement social était là. Le pouvoir était effectivement en discrédit. Et il y avait une attente d'autre chose.
Gérard Filoche, nous y voilà. Il y a un moment quand même très fort en mai 68, c'est Charletti. Vous êtes socialiste aujourd'hui, à la gauche du Parti Socialiste. Vos positions sont claires, très claires pour ceux qui vous suivent. Mais à l'époque, à Charletti, on a vu arriver François Mitterrand avec Pierre Mendès-France. C'était votre gauche, ça.
Michel Rocard, oui, et Mendès-France. Mais qu'est-ce que c'était? C'était le résultat d'une indécision, parce qu'il y avait eu des négociations pour savoir s'ils pouvaient former une espèce de gouvernement populaire ou je ne sais quoi, et ils discutaient déjà les places qu'il y avait pour les communistes, pour la gauche, pour le centre. Et comme ils se mettaient pas d'accord, ils tâtonnaient pour aller se faire reconnaître dans telle manifestation ou dans telle manifestation. Ils avaient tous tort sur un point. Et l'extrême gauche aussi, à laquelle j'appartenais, bien sûr. À l'époque, c'était évidemment la Ligue et les JCR. On avait tort sur un point. Il fallait demander les élections le premier. C'est-à-dire, il fallait, à partir de la légitimité, de la force, de la puissance de ce mouvement social, dire, nous voulons cela, cela, cela et cela, et nous voulons voter, parce que nous voulons reprendre le pouvoir par les élections. Il fallait pas dire élection trahison. Il fallait devancer De Gaulle. Il fallait devancer la droite. Il fallait s'emparer de l'exigence démocratique. Parce que là, ils l'ont retourné contre nous. Et nous, on disait élection trahison, et on était à côté de la plaque, et toute la gauche pédalait. Toute la gauche pédalait. Qu'est-ce qu'on fait? Ils se disputaient entre la gauche, au sommet de la gauche, sur la place d'un gouvernement qui n'a jamais vu le jour. Et pendant ce temps-là, ils demandaient eux même pas des élections. C'est-à-dire que quand De Gaulle fait son prétendu référendum qui est à côté de la plaque, là, il fallait dire, oh, ça va, on vote. Dissolution de l'Assemblée, et puis démission du président, on revote tout. Voilà. Et celui qui prenait l'aspect démocratique ajoutait la démocratie à la force du mouvement social. C'est une leçon fantastique pour nous, pour l'avenir, en toutes circonstances.
Nous disons que l'État est partie prenante de l'antagonisme de classe.
Tant qu'il y a d'un côté des manifestants, de l'autre côté des policiers, nous sommes du côté des manifestants et nous n'en sortons pas.
Que l'État représente une classe.
La grève avec occupation d'usine est adoptée à l'unanimité, moins d'une voix.
La bourgeoisie cherche à préserver une partie des étudiants, futurs cadres de la société.
Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution, et après avoir procédé aux consultations prévues par cet article, j'ai prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Veuillez croire, Monsieur le Président, etc. Signé Charles de Gaulle.
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un Parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue. Nous allons pratiquer une politique de démocratie directe.
Vous savez, depuis quelque chose comme 30 ans que j'ai affaire à l'histoire,
Il m'est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter. Le 29 mai, je me suis interrogé moi-même et je me suis senti consolidé dans ma résolution par la volonté des Français.
Alors, revenons quand même à mai 68 et à l'image qu'il en reste, même si, encore une fois, elle se modifie à chaque commémoration, selon les nécessités du présent ou la circonstance historique, politique qui correspond à la commémoration. L'image, c'est effectivement, c'est les voitures brûlées, c'est Gay-Lussac, c'est tout un romantisme, c'est le visage de Cohn-Bendit, c'est enfin tout un romantisme d'une jeunesse superbe qui, voilà. Et puis, alors, ce que vous dites, oui, vous dites d'accord, mais il y avait aussi les étudiants en province, dont vous étiez. Donc, il y a déjà ce, oui. on oublie complètement.
Il
n'y
a pas d'image de la province.
Voilà. Il n'y a pas d'image de la province. On oublie le reste du monde, parce que ça chauffait un peu partout.
140 pays où il y a des mouvements.
140 pays, c'est quand même pas rien. Et puis, il y a surtout ces ouvriers qui, ces salariés, parce que c'est pas seulement des ouvriers, c'est à tous les coins de rue. On se souvient de ces groupes de parole qui se constituent un peu partout, et pas seulement à Paris, de n'importe qui parlant avec n'importe qui.
Je tenais un meeting tous les soirs à Rouen. C'était le cirque. On n'avait pas un grand truc à occuper. On avait un cirque en dur qui existait au Boulingrin. Et il y avait 3000 personnes tous les soirs. On dissertait sur le socialisme, sur le Front populaire, sur la révolution russe, sur la libération, sur on expliquait toutes les questions venaient. C'était jamais vu. Une fois, il y a une enseignante qui a pris la parole dans ce décor. Elle nous a dit, écoutez, elle avait pas l'habitude de parler. Elle dit, j'ai pas l'habitude, vous savez, je suis impressionné parce que j'en avais marre de mon boulot, tout était gris. Mes élèves m'écoutaient à peine, ils regardaient la télé. Je demandais aux parents de venir, ils venaient pas. Et puis, j'arrivais pas bien à les intéresser. Ben, écoutez, depuis 15 jours, on était vers le 25 mai, depuis 15 jours, tout a changé. Ils s'intéressent à tout. Ils me posent des questions qu'ils me posaient pas avant. Les parents me demandent de me voir, alors, sans même que je les ai appelés. Vraiment, tout a changé. Même le voisin de palier, je me dispute plus avec lui. Je me mets un arrêt de bus, il n'y a plus de bus. On me prend, il n'y a pas beaucoup de voitures. Et on se parle comme si on se connaissait depuis toujours. Alors, je vais vous dire, je suis tellement heureuse depuis 15 jours. Puis quand elle a fait ça, il y avait un silence de mort. 3000 personnes qui écoutaient. Et alors, elle dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça dure? Je me rappelle, j'étais à la tribune avec un groupe de mes camarades. On s'est regardé, c'est moi qui m'y suis collé. Je sentais que j'étais très mauvais, que je pouvais pas lui répondre. J'ai dû expliquer qu'il fallait construire un parti révolutionnaire, que nous posions les bases de la transformation de la société et tout. Mais je lui répondais pas, j'avais pas les éléments. Je les ai peut-être plus maintenant. Parce que je sais l'importance de ce que c'est la durée du travail, le salaire plus, la retraite à 60 ans, comment on peut garantir des congés, comment on peut permettre du loisir, comment on peut protéger le dimanche pour se voir en famille, tout ça. Je sais toute l'importance de ces choses-là, qui était en fait l'importance de ces millions de salariés qui bougeaient. Et je sais plus ça maintenant qu'à l'époque. Je tenais un discours abstrait, il n'était pas faux, mais je savais pas l'incarner et le traduire politiquement, syndicalement et socialement, comme je saurais le faire aujourd'hui.
On va revenir à d'autres sujets pour voir un peu le lien entre votre jeunesse et l'expérience acquise avec le temps. Mai 68, on va mettre de côté les inévitables renégats, mais que reste-t-il de mai 68? On dit toujours, sur le plan social, ça a été un échec. Par contre, sur le plan des mœurs, mai 68, ça a amené des progrès dans la condition des femmes, plus tard les homosexuels, etc. Tout un tas de un bouleversement au niveau des mœurs. Il est d'ailleurs, il serait assez facile de démontrer que le président de la République qui lutte contre mai 68, qui entend en finir avec mai 68, ne pourrait pas avoir la vie et afficher la vie sentimentale qu'il a si mai 68 n'était pas passé par là il y a une quarantaine d'années. Vous, quel bilan vous faites? Est-ce que vous acceptez cette division entre échec social de mai 68, échec politique même, et par contre, des acquis au niveau des mœurs?
Si vous me permettez, je l'accepte pas. Je pense qu'il n'y a pas d'échec social. C'est même là que c'était le point fort. Contrairement à tout ce qui est expliqué et martelé depuis. D'abord, il y a une progression du salaire tout à fait fantastique. Deuxièmement, il y a la marche vers une baisse de la durée du travail, qui est pourtant pas négociée à Grenelle, hein, mais qui va se faire dans les 4 années qui viennent, parce qu'il y a du non-dit à Grenelle, mais petit à petit, le rapport de force est tel que ça change beaucoup de choses dans le cadre des entreprises. Et vous avez dans l'entreprise un changement qui va durer du rapport d'exploitation. La dignité est plus respectée parce qu'il y a eu un rapport de force. Parce que quand vous avez 11 millions de grévistes, le contremaître à peu près, après, il peut pas regarder les gens exactement de la même façon.
Qui chef.
Ça reste dans les têtes. On s'est regardé, on s'est mesuré, on a senti la force qu'on avait. Tu marcheras plus sur les pieds comme avant. Ça, c'est quelque chose profond. Bon, après, avec le temps, ça se rôde, ça s'érode. Mais c'est resté assez durablement. Et l'effet politique différé de mai 68, il est arrivé avec la victoire de la gauche longtemps après, en 81. C'est pas arrivé tout de suite. Alors, entre-temps, toute une série, effectivement, de droits démocratiques pour les femmes, pour les homosexuels, pour la vie sexuelle tout court, pour les mœurs, comme on dit, ont pu être obtenus. Mais je veux pas ni opposer l'un et l'autre, ni dire que sur le plan social ça n'a pas compté. Hein, je crois que d'ailleurs, en fait, la vérité, c'est que si ça a mis tant de temps à reprendre la grève après les accords de Grenelle, c'est que les gens estimaient que ce qu'il y avait dans Grenelle n'était pas suffisant. Les organisations syndicales ont accepté d'écarter dès le début, par exemple, l'abrogation des ordonnances sur la sécurité sociale. Ça a été pratiquement un point écarté, pas à l'ordre du jour, alors que c'était la revendication depuis 3 ans. Donc il y avait un malaise et les gens auraient voulu regagner leur sécurité sociale qu'ils géraient, où ils élisaient leurs représentants, où le patronat, le paritarisme, ce n'était pas 50-50, c'était 11 à 15% des sièges pour le patronat. Place qu'ils doivent occuper, d'ailleurs, en proportion de ce qu'ils sont. Enfin, et il y avait autre chose du point de vue du souvenir de la sécurité sociale et de l'après-guerre, qui était bien mieux construit. Et les gens le voulaient. Ils ont été en partie déçus. Là-dessus, on n'a pas assez travaillé. Hein, il y a eu quelques études sur les minutes des accords de Grenelle. Dedans, on gagne des trucs, mais on sent bien que ça va pas assez loin, qu'il y a de la division syndicale. Qu'il y a une direction syndicale à l'époque et c'est pas, ça a changé en 30 ou 40 ans, mais la CGT qui est pressée quand même de stopper le mouvement et de négocier. Et lorsque Georges Séguy parle à Billancourt, il a, on le sait tous, un double langage. Il dit à la fois voilà ce que j'ai fait, mais est-ce que j'ai pas signé, qu'est-ce que vous en pensez, et il attend la réaction, et la réaction c'est on veut plus. Bon, et c'est le point nodal en fait de mai 68. Donc ça rebondira après. Les gens revolent cela. Alors il y aura des choses qui seront obtenues seulement les 39 heures, la cinquième semaine de congés payés, des hausses de SMIC à nouveau en 81, 82 par une victoire politique.
Vous dites que la force de propulsion de 68 continue. Est-ce que vous pensez qu'un nouveau mai 68 est possible?
Enfin, bien sûr.
Une manifestation de ce genre, de mobilisation.
Je n'ai aucun doute à ce sujet. Serge Lully avait dit une fois que mai 68 était la dernière grande grève du 19e siècle. Moi, je pense que c'est la première grande grève du 21e siècle. Et je pense que nous aurons des grèves de ce type, non seulement dans notre pays, en France, qui est très avancé, hein, de ce point de vue, faut pas être chauvin, mais nous avons eu plusieurs fois des mouvements centraux de ce type. Je dis qu'en 86, par exemple, je rappelle de la loi de Vaquet et de la mort de Malik Houssekine, le pouvoir avait reculé, celui de Chirac à l'époque, mais aussitôt après, il y avait eu des grèves des marins, des mineurs, des RATP, des cheminots, pendant à peu près 3 semaines. On avait eu un mini mouvement de ce type. Je reparle de novembre-décembre 95, dont on n'a pas célébré l'anniversaire en 2005, mais qui était un mouvement spectaculaire, extraordinaire. Hein, il y avait 3 à 4 fois plus de manifestants dans les rues en province en novembre-décembre 95 que le 13 mai 68. Donc c'est pas fini, mai 68. C'est quelque chose de vivant profondément dans le cœur social de notre pays.
On continue, Gérard Filoche, parce que vous avez quand même un ton et un enthousiasme qui est tout à fait contradictoire avec l'ambiance de résignation et d'impuissance qui domine quand même aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout spécialement, avec ce qui se passe à Versailles.
Oui. Bah écoutez, on a des coups de force. C'est-à-dire que comme ils peuvent pas affronter complètement le mouvement social, faut qu'ils mentent. Alors ils mentent sur le référendum. Bon, aujourd'hui, soyons clairs, ceux qui sont pour un référendum sont majoritaires dans le pays, tous les sondages le disent, plus de 71%, si j'ai bien compris. Et Bling Bling, il a dit que s'il y avait un référendum, le non l'emporterait. Il a dit ça à des députés britanniques, si j'ai bien compris également, et tout le monde en est convaincu, c'est-à-dire pour ça qu'ils n'en veulent pas. Donc ceux qui veulent un référendum, qui vont manifester à Versailles, ou ceux, je les admire, tous les députés qui vont aller voter, qui vont voter non au changement constitutionnel, pour obtenir un référendum, c'est-à-dire pour respecter la démocratie dans notre pays, tous ceux-là sont majoritaires. Et tous ceux qui ne sont pas majoritaires, ce sont ceux qui essaient d'esquiver la décision du peuple, qui essaient de fourguer une deuxième fois le même texte, de la même façon qu'ils ont travaillé souterrainement, clandestinement, qui est un texte, tout le monde le sait, illisible, qui n'est qu'en creux, qui fait que des modifications. Il faut le relire, comme quand on a une empreinte, il faut pour accéder à tous les mystères qui sont donnés. Eh ben, je dis ça parce que ils ont fait la même chose parallèlement pendant 2 ans en France, avec le Code du Travail. Mmh. Pendant 2 ans, ils ont fait une commission quasi-secrète de 5 technocrates. Hein, l'un, c'est mon patron, c'est Jean-Denis Grobac, c'est le directeur des relations du travail. J'ai lu l'autre jour dans Liaison Sociale qu'il mangeait tous les mois, une fois par mois, avec Denis Gauthier-Sauvagnac. Il a pas perdu son temps, parce que ça fait 2 ans, il a passé le Code du Travail à l'acide, aidé par le cabinet Barthélémy, cabinet d'avocats qui est le plus proche du MEDEF, et qui négociait côté MEDEF avec les syndicats récemment, il y a une quinzaine de jours. Et avec un universitaire, je crois bordelais, qui s'appelle Christophe Radet, qui a osé faire comme préface au Dalloz, qui présente le nouveau code, hein, 663 pages d'ordonnance discutées en une demi-heure au Parlement. Hein. Et il a osé faire comme préface, il faudra des mois, voire des années, pour que ce nouveau code révèle tous ses secrets. Et il ajoute, ce sera pour les usagers un effort colossal. Le gars, il était mandaté pour simplifier le code. Il était mandaté pour le moderniser. Ils ont à 5, là où il y avait 273 subdivisions, ils en ont fait 1790. Là où il y avait 1150 lois, ils en ont fait 3850. Ils ont prétendu que c'était à droit constant, ils ont changé 500 lois en décret, en les écartant. Ils ont modifié le plan, ils ont modifié le fond, ils ont modifié la doctrine, ils ont modifié l'approche qui est de 130 ans d'histoire du Code du Travail, en douce, par ordonnance. Et j'ai dit que cette ordonnance avait été faite dans le silence total au Conseil des ministres du 7 mars 2007, publié au journal officiel le 12 mars 2007. Et c'est le Conseil des ministres du 18 avril, 4 jours avant le premier tour, qui l'a envoyé au Parlement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat en pleine présidentielle alors qu'on était en train de changer le code. Contre l'avis de tous les syndicats qui, en février 2007, s'étaient tous prononcés contre. Bon, c'est la même pratique finalement que le traité de Lisbonne. Vous savez, en plus, avec une blague, si vous me permettez. Parce que le patronat, le MEDEF, disait « le code du travail est trop compliqué ». Alors, c'est un peu culotté de la part de ceux qui défendent le traité constitutionnel européen. Celui-là, ils le trouvent pas trop compliqué. Ils l'imposent aux gens. Par contre, ils essaient de liquider le code du travail en disant qu'il est trop complexe.
Mais quelles sont les conséquences?
Les méthodes sont les mêmes.
Quelles vont être les conséquences de cette modification du code du travail?
Elles vont mettre du temps à s'appliquer parce que pour l'instant, c'est comme Chirac avait promulgué l'ordonnance sans qu'elle s'applique tout de suite. C'est un peu comme il avait fait pour le CPE, là, en avril 2006. Et ça ne s'appliquera que quand tous les décrets auront été réécrits, sont en cours de réécriture, plus de 3000 décrets. Ça ne s'appliquera que le 1er mai 2008, dans 3 mois. Mmh. Donc on sait pas. On sait pas. Il y a une série de mystères. Parce que, par exemple, tous les chiffres ont été retirés de la loi pour être mis dans les décrets. Alors, par exemple, l'indemnité légale de licenciement, son niveau. Par exemple, je sais pas, le port des charges. Est-ce que c'est 25 kilos? On nous dit que oui, mais on verra. Par exemple, les seuils sociaux. À partir de 11 salariés dans une entreprise, on a des délégués du personnel aujourd'hui. À partir de 50, eh ben, on a des comités entreprise. J'ai cru entendre que le rapport Attila, il disait que maintenant c'était 100. Hein, pour avoir un CE. Et comme c'est retiré de la loi, et que ça va être dans les décrets, surprise, d'ici le 1er mai 2008, on en saura plus. L'autre jour, j'étais en un débat avec quelqu'un de la CGPME, ben, il me disait, nous, on réclame un seuil à 25. Alors, c'est pas pareil, hein, si c'est les entreprises de plus de 11 salariés, ou les entreprises de plus de 25 salariés qui ont des délégués du personnel. C'est pas pareil non plus, le nombre de délégués du personnel qu'il y aura dans chaque cas. Et ben, tout ça, c'est pochette surprise. Ça a été retiré de la loi, et on attend les décrets d'application. Et je pourrais vous citer des dizaines d'exemples de cette sorte. Ils ont retiré la durée du travail du chapitre conditions de travail. Alors que depuis 130 ans, le code a été écrit pour baisser la durée du travail. Ça vient du rapport Villermé, 1848, sur le travail des femmes et des enfants. Il a regardé, ils étaient dans un état catastrophique, ils travaillaient 14 heures par jour. Alors il n'a pas dit faut travailler plus, il a dit faut travailler moins.
Comment vous pouvez rester optimiste et battant et militant alors que vous êtes en train de décrire un grand bond en arrière, pour reprendre le titre du bouquin de Serge Halimi? C'est ça qu'on est en train de vivre, un grand bond en arrière. Et pourtant vous dites ne nous résignons pas, ça va s'arranger.
Je partage le bouquin de Serge Halimi. Je partage ce qu'elle dit sur le bond en arrière. Je décris l'offensive idéologique qu'on a, c'est-à-dire
parce que c'est bien ça dont il s'agit.
Ah oui, bien sûr, ce sont des intégristes en plus. qu'on a actuellement au pouvoir, hein, quand Bling Bling il dit qu'il veut remettre en cause la France 60 ans en arrière. Je veux changer la France telle qu'elle est depuis 60 ans. Sans doute que ce qu'il y avait il y a 65 ans ne le dérangeait pas. Mais ils veulent la changer depuis 60 ans. Ils sont intégristes, ils veulent aller à fond. Mais moi, ma confiance, elle est en la résistance du corps social. Si vous voulez.
Ce que eux appellent un archaïsme.
Eh oui, mais moi, c'est beaucoup plus fort que tout leur
discours. Pour vous, c'est un progrès, cet archaïsme.
Je vais vous expliquer. En 68, il y avait à peu près 70% de la population active qui était salariée. Aujourd'hui, c'est 93%. C'est-à-dire que le salariat, il ne le sait pas, le salariat. On ne lui dit pas tous les matins à 7h20 sur France Inter. Mais il ne le sait pas. Mais le salarié est beaucoup plus fort, numériquement, sociologiquement, économiquement, que ce qu'il a jamais été. Alors on lui explique qu'il est précaire, battu, etc. Mais il a encore une force. Et il l'a manifesté fréquemment dans les 4, 5, 6, 7 et même 10 dernières années. Ça, ma confiance, ça vient de là. Ma confiance, ça vient que quand ils font le CPE, au début, ils disent, dans les sondages, ils disent ouais, 70% des Français sont pour. Il y a 2 mois de lutte et 87% des Français sont contre. Et ça réarrivera. C'est pas une question de foi de charbonnier. C'est pas une question de croyance ou d'optimisme, c'est l'observation des choses, l'observation des forces sociales. Et c'est là que j'ai toute ma confiance.
Qu'est-ce que vous pensez de la baisse dans les sondages de popularité de celui que vous appelez Bling Bling?
Bah écoutez, personnellement, ça me surprend pas. Je pense que c'est une chute en torche. Je pense que c'est logique. C'est un peu un discrédit pour la France d'avoir un président de ce type. Je pense qu'il a gagné à la hussarde. Un peu contre la majorité antilibérale, sociologique antilibérale qu'il y a. Il a gagné parce que la gauche en face n'était pas assez forte et assez convaincue. Il a gagné parce qu'on n'a pas su défendre les 35 heures contre son travailler plus. On n'a pas su défendre la retraite alors que... On n'a pas su défendre le droit du travail alors que... On n'a pas pris les questions sociales à bras-le-corps. Moi, je suis socialiste, je reproche ça à mon parti. Et je me battrai au prochain congrès de mon parti pour qu'on mette la question des 35 heures, la retraite à 60, tout ce qu'a été fait par les socialistes de bien, pour qu'on le mette au cœur de notre programme, et que face à Bling Bling, on lui dise « Tu vas ravaler ce que tu es en train de détruire, et nous allons reconstruire quelque chose de bien mieux. » Pour nous, on veut un partage des richesses. On veut prendre au capital tout ce qu'il a pris aux salariés. On veut le redonner, parce que c'est une condition de développement de notre propre économie. C'est une condition de vie correcte pour tous les salariés. Regardez les salariés du commerce le 1er février. Quel beau combat pourtant. Ils n'ont pas de syndicat, presque pas. Ils sont très minoritaires. C'est dur. Ils sont précaires. On leur tape dessus. On les insulte. On les maltraite. Ils parlent sur toutes les radios pour expliquer ça. Mais c'est eux le cœur. C'est pas bling bling. Il y a dans cet affrontement-là.
Mais il vous répondra, je m'en fous, je suis élu.
Attendez, quand vous chutez beaucoup en popularité, quand vous vous faites ramasser aux élections municipales, comme j'espère que ça va arriver, parce que moi, les gens, je leur demande pas d'avoir confiance totalement. La gauche, elle a pas un langage assez gauche aujourd'hui, mais je leur demande de voter quand même. Parce que s'ils votent quand même, leurs voix se comptabiliseront contre Bling Bling. Alors qu'ils y aillent, pas d'abstention, n'ayez pas d'état d'âme. Même si vous n'êtes pas tout à fait motivé, allez, mettez votre bulletin, c'est contre l'autre. Et si on le bat bien, électoralement, que du point de vue social, on se bat bien, et que dans les popularités, ils chutent, vous le voyez continuer à gouverner comme ça? Non. C'est ça qu'on peut empêcher.
Et voilà, ce n'est qu'un début, la commémoration. On commençait le 40e anniversaire de mai 68. On va en avoir jusque-là rapidement. Voilà la raison d'être de cette émission aujourd'hui. Avec Gérard Filoche, je rappelle à nouveau le titre de son bouquin. Mai 68, histoire sans fin. Liquidé mai 68, même pas en rêve. Et il prépare un deuxième tome, ce jeune homme. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter.
à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org, vous pouvez la réécouter et en réécouter une quantité formidable à la technique aujourd'hui. Antoine Viossa et Aurélie Fortin, Yann Chouquet et Koyen Guyen ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry, qui est en charge du répondeur de Là-bas si j'y suis, qui attend vos messages, coups de gueule et coups de cœur au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.